Voilà Matthieu 21, verset 1. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et à l'instant, il les laissera aller. » Or ceci arriva avec s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et ils en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci ? » La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth » en Galilée. Amen. Vous avez deviné, hein, la Pâque n'est pas encore très loin, l'entrée de Jérusalem, où Jésus devait passer, bien sûr, par la croix. Hein, c'était justement quelques jours avant de souffrir, eh bien, sur ce bois infâme. Jésus entre dans Jérusalem. On va voir qu'il est glorifié. Hein, sous les acclamations, la foule était là. Alors, cette entrée à Jérusalem, eh bien, n'était pas un simple événement sans importance, puisque ça faisait, bien sûr, partie du plan de Dieu. Et il y avait des prophéties, hein, il fallait eh bien sûr qu'il passe par là, qu'il passe aussi, on va le voir tout à l'heure, eh bien par la mort sur le bois de la croix. En tout cas, nous allons voir en étudiant cet événement, eh bien trois aspects très significatifs et d'une grande richesse pour nous. Jésus monté sur son âne, qu'est-ce que ça d'enrichissant pour nous? Qu'est-ce que ça de grand? Un ânon, hein, bien sûr. Alors Jésus est en route pour Jérusalem, il arrive à Bethphagé, tout près des monts des Oliviers. Et là, eh bien, il envoie deux disciples. Allez et ramenez-moi, eh bien, le petit d'une ânesse, un petit ânon, hein, vous allez me le ramener. Et il leur dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Moi, j'aime bien ces paroles de Jésus, il y a quand même de la modestie. Et si quelqu'un vous demande quelque chose, il sait très bien que, eh bien, on va demander quelque chose aux disciples. Hein. Mais le Seigneur est là, il est prévoyant, il annonce les choses, hein. Il le fait à sa manière, bien sûr, et puis, vous savez, c'est un grand pédagogue. Alors, il dit, si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondez, voilà, le Seigneur en a besoin. Et c'est ainsi que Jésus entre à Jérusalem, monté sur cet ânon, eh bien, qu'on lui a amené. La multitude qui l'accompagne dépose ses vêtements sur son passage. On coupe des branches d'arbres qu'on étend sur la route, tout en louant, eh bien, le grand Dieu, le Dieu vivant et vrai. Hosanna ! Ô fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Alors, nous constatons plusieurs faits étonnants dans cette scène. Premièrement, Jésus monté sur un âne. Ça peut paraître étonnant, mais ça n'avait rien d'étonnant, puisque ces choses avaient été annoncées et écrites environ 500 ans avant la naissance de Jésus, cette naissance miraculeuse. C'est Zacharie qui en parle. Zacharie chapitre 9, verset 9. Où il dit « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi, vient à toi. Il est juste et miséricordieux, ou victorieux, pardon. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. » Alors pour accomplir eh bien, la parole prophétique, Jésus devait vraiment monter sur le petit d'une ânesse. Il devait vraiment monter eh bien, sur cet ânon. Fils de Dieu, parce que Jésus est fils de Dieu. Amen. Et il aurait pu entrer à Jérusalem de façon plus somptueuse, hein, mais pour accomplir la volonté de Dieu, voilà que Jésus a choisi l'humilité. Il s'est humilié lui-même en montant sur un ânon. Et je dirais avec la même humilité, Jésus n'est pas seulement monté sur un ânon pour entrer à Jérusalem, mais on le sait, hein, nous sommes tous placés au bénéfice de la mort de Jésus à la croix. Eh bien, Jésus a obéi jusqu'à la mort de la croix pour nous sauver et pour accomplir pleinement la volonté du Père. Et si nous sommes là ce matin, les uns et les autres, eh bien, c'est parce que Jésus a choisi la mort. l'humilité qui a conduit justement sur le bois de la croix à se charger de nos péchés, de nos iniquités. À quelques heures de son arrestation, faire la volonté de son Père, eh bien c'était un véritable combat. Quand justement vous aussi vous avez des décisions à prendre, il y a des décisions concernant le Seigneur, concernant un témoignage à rendre peut-être, un supérieur ou je ne sais, est-ce que c'est facile? C'est un combat. Comment est-ce qu'il va le prendre? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'après il va m'en tenir rigueur? Est-ce qu'après bien peut-être nos liens d'amitié vont être rompus? Voyez, lui, Jésus a dû lui virer une lutte acharnée contre sa volonté, mais également contre les ténèbres, contre le découragement, parce qu'il savait, hein, il savait qu'il y aurait cette coupe infâme, bien sûr. Hein. Il est dit dans Matthieu 26, verset 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux filles de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que tu éloignes cette coupe de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouve endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ce n'est pas un combat, ça? Mais c'est terrible. Et nous avons, nous aussi, quelquefois des combats à livrer. Il faut les livrer. Et le Seigneur a dit qu'il était avec nous. Amen. Faire la volonté de Dieu peut paraître chose impossible à des moments. Mais si Dieu nous demande quelque chose, il nous donne les moyens de pouvoir les vivre. Il nous donne les moyens de pouvoir accomplir pleinement sa volonté. Il ne nous envoie pas comme cela, vide, mais il nous remplit. Il nous donne sa force, sa sagesse, son discernement. Amen. La Bible nous le dit, nous avons tout pleinement en Jésus. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Alors Jésus, sur son âne, il montre son humilité. Tout comme Jésus montre une attitude humble, mais également paisible, en entrant à Jérusalem, assis sur ce petit anneau, soyons nous aussi, je dirais, un exemple d'humilité et de paix pour les autres. Amen. Hein, d'humilité et de paix. Vous savez ce que dit la parole de Dieu? Quand nous sommes remplis de nous-mêmes, orgueilleux, qu'est-ce qui se passe? Dieu nous résiste. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas nous accompagner. Mais la Bible nous dit qu'il fait grâce. Il fait grâce à ceux qui sont remplis d'humilité, à ceux qui sont humbles. Amen. Je suis ce que je suis, disait Paul, par la grâce de Dieu. Et c'est la même chose pour nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est un effet de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que j'ai que je peux revendiquer? Nus nous sommes venus sur la terre, nus nous repartirons. Alors bien sûr, nous savons que ce que nous sommes, c'est un effet de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la bonté de Dieu, quelquefois même de sa patience. Eh oui, parce que des fois c'est dur pour qu'on fasse le pas et qu'on y aille, mais le Seigneur tout simplement nous dit « Je suis avec toi ». Amen. Alors, ces actes, tout comme je dirais ces paroles, étaient, je dirais, totalement différentes de celles et de ceux des scribes et des pharisiens. Il a dit « Je suis doux et humble de cœur ». Amen. Nous aussi, disciples de Jésus, montrons cette même humilité devant les hommes. Suivant son enseignement, avançons avec la grâce qu'il nous donne. C'est Paul qui dira dans sa lettre destinée aux chrétiens de Philippe, Philippiens chapitre 4, verset 1 à 5, il dit « Rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et il rajoute que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Le Seigneur revient bientôt? Ah, et oui, il revient bientôt. Le Seigneur est proche, il est à la porte. Quand, je ne sais pas, personne ne le sait. Il n'y a que le Père. Mais il nous dit qu'il revient bientôt. Bien des événements autour de nous montrent, bien sûr, que... Vous savez que comme l'apostasie grandit de plus en plus, le bien est appelé mal, le mal est appelé bien. Je vous raconte une petite anecdote. C'est un gars qui travaille aux ascédiques. Il est dans l'informatique. Il découvre quelque chose. Il découvre simplement que son chef, son supérieur, pointe aux ascédiques. Tout un état directeur de service informatique des ascédiques pour le contrôle justement des dossiers. Il dévoile l'affaire. Le gars qui justement a été celui que, par qui on va savoir que le directeur quelque part il triche, lui, il est mis à la porte. D'accord? Il est licencié. Et le fameux directeur pointeur aux ascédiques, parce qu'on l'appelle comme ça, lui, il part avec 170 000 euros d'indemnité de licenciement. Allez comprendre quelque chose. Eh bien, c'est simplement que nous sommes dans ces temps d'apostasie, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Mais nous, enfants de Dieu, nous savons que nous avons des valeurs. Elles nous viennent d'en haut. Elles nous viennent du Père des Lumières. Et nous avons besoin, non pas de regarder à ce monde pour lui ressembler, mais de regarder au Seigneur. La deuxième chose, Jésus reçoit un moment donné l'adoration. Vous savez qu'à des moments, eh bien particuliers, on voulait l'adorer, mais il disait, ce n'est pas le moment. Il se retirait, il s'éloignait. Là, il entre à Jérusalem, c'est le moment. Une grande foule crie, gloire à Dieu, hein, gloire à Dieu dans les cieux. C'est dans la version française courant, Matthieu 21, verset 9. Mais dans la traduction Louis II, c'est Hosanna dans les lieux très hauts. Hosanna veut dire sauve-nous maintenant ou aide-nous maintenant. Alors en ce temps-là, on le sait, Israël était occupé par l'Empire romain, les légions romaines étaient là. Le peuple d'Israël était traité comme un esclave par ce gouvernement romain, cette administration romaine. Et puis la venue et les miracles de Jésus qu'il va accomplir. Pareille circonstance, induit justement les Israélites à penser que Jésus, c'était le libérateur. Il venait les libérer de l'envahisseur romain. Il allait faire partir ses légions. D'abord, il allait faire lever une foule de combattants, de guerriers qui allaient justement prendre les armes. Et ainsi, il allait être le leader, tout simplement pour la délivrance du peuple. Mais en fait, il comprenait mal la véritable venue et le véritable but de la venue de Jésus sur la terre. L'Écriture nous montre que Jésus est venu ici-bas pour donner la vie, mais également la liberté à l'humanité tout entière, parce que retenu justement sous cette forme de malédiction, c'est ce que Dieu avait dit à Adam, il te poussera des ronces et des épines, quelque part c'est une malédiction qui est tombée sur l'homme parce qu'il y avait la désobéissance, mais également captive des liens de Satan depuis justement cette fameuse chute d'Adam et Ève. Alors Jésus est venu pour redonner vie à nos âmes mortes. Il va le faire par ce sang précieux qui va couler de la croix, son sang va être versé, afin que par lui, nous recevions la grâce du salut. Amen. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Je ne sais pas si vous réalisez, vous avez été choisis. Puisqu'on nous appelle élus. On a été choisis. Amen. Et pas choisi par n'importe qui, mais choisi par le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Par ce Dieu d'amour. Vous avez de la valeur. Même si ce monde vous méprise, même si peut-être auprès de vous, on vous tourne en dérision, votre foi, votre amour pour le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous savez ce qu'ils ont fait au Seigneur? Ils ne le font. C'était annoncé. Le Seigneur l'a dit. Alors, bénissez le Seigneur de participer aujourd'hui encore à la grâce, à la bonté de Dieu, d'être participant à cette œuvre formidable qu'il nous a confiée, d'être ses témoins, ses disciples ici-bas. En tout cas, Dieu veut combler nos cœurs, nos âmes, et il ne se prive pas. Des bienfaits, il en a en réserve. Amen. Et comme le dit Jean dans une de ses lettres, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Là, il s'en passe. Vous savez, notre âme, c'est le siège de nos désirs, notre personnalité, de nos sentiments. Vous avez des désirs, des sentiments. Quelquefois, ils parlent très haut, les sentiments. Hein? Eh oui, mais vous savez, Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Notre âme, il veut la remplir, la combler. Il veut nous faire déborder de lui. Il dit à tous égards que tu sois en bonne santé. Et notre âme a besoin justement de cette bonne santé. Alors les Israélites ont été déçus. Est-ce que le Seigneur vous a déjà déçu? Hein? Oui? Non? Enfin, moi personnellement, non. Peut-être que vous, hein, parce que peut-être que vous n'étiez plus en adéquation avec sa volonté, avec son désir. Mais en fait, si vous êtes déçus vous-même, hein, parce que le Seigneur, lui, ne déçoit pas. Alors les Israélites, ils ont été déçus que Jésus, lui, ne les délivre pas de la main des Romains, c'est-à-dire qu'il ne soulève pas une armée, non. Alors Jésus, lui, n'était pas venu pour changer ses voies au gré des humeurs humaines, non, pas du tout. Hein, il n'a pas changé ses voies, il était destiné, lui, à supporter la croix. Et selon le plan de Dieu, il fallait qu'il monte sur le bois de la croix, qu'il soit crucifié, afin justement que le prix du péché de l'homme, eh bien, soit acquitté pleinement. Il fallait que quelqu'un meure. Il fallait qu'un juste livre sa vie en sacrifice. Il fallait que le sang innocent coule de la croix. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Parce que quelques temps plus tard, il va se passer quelque chose. C'est l'attitude humaine. Regardez un petit peu, il y a des cris de louange. Hosanna, au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Formidable, c'est la fête, c'est la liesse, on est heureux. Voyez ? On est toujours dans sa pensée, c'est lui, ça y est, il arrive, c'est le grand chef, c'est le leader, c'est lui qui va soulever eh bien, la population. Allez, on va triompher, on va les faire partir, eh oui. Eh bien, voilà que les cris de louange sont remplacés par des cris tout autres. J'ai mis des cris de malédiction. Et Pilate leur dit, que ferais-je donc de Jésus, qu'on appelle Christ? Tous répondirent, qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Parce qu'il sait, il est renseigné, il a son service de renseignement dans la ville, il sait très bien que Jésus n'a pas fait de mal, mais que du bien. Alors quel mal a-t-il fait? Et là, il crie encore plus fort, je rappelle, ceux qui étaient dans la foule en train de dire, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Maintenant, il crie encore plus fort, qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié, qu'on en finisse, qu'on le fasse disparaître. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a là des enfants. Et béni soit le Seigneur pour les enfants. Amen. Eux, ils n'ont pas le même langage. Eux, ils continuent à louer Jésus. Il nous dit, Matthieu 21, verset 15, des enfants criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Amen. Quel exemple pour les grands. Quelquefois que les enfants, leur simplicité, de quoi nous étonner, bien sûr. Mais c'est pourtant la réalité. Hein? Alors voilà que les principaux sacrificateurs, les pharisiens, tout comme les scribes, eux, ils sont indignés. Ils sont indignés. Hein? Alors Jésus, il dit qu'il va les reprendre et il va dire à ces mauvais conducteurs spirituels, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Amen. C'est-à-dire que le Seigneur n'est jamais à bout d'arguments. N'a-t-il pas fait parler justement une ânesse? Hein? Eh oui, là c'est les enfants en disant soyez simples comme eux, regardez vers eux, hein, suivez ces petits modèles là. Nous, il nous faut des grands modèles, mais là il dit suivez ces petits modèles, il vous donne une leçon. Eh oui, en tout cas, les juifs religieux ils s'offusquaient de ce que les enfants criaient Hosanna au fils de David. Alors Jésus n'est pas à bout de ressources, le Seigneur. Hein? Il va leur citer un passage d'une prophétie de l'Ancien Testament, c'est le psaume 8, verset 3. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Amen. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants. Soyons simples comme eux. Voyez pas? Et de ceux qui sont à la mamelle. C'est encore tout petit, hein? Eh bien oui, Dieu est capable, hein, j'ai ce témoignage. C'était donc lors de ces persécutions qu'il y avait, hein, par rapport au protestantisme, ces dragonnades, etc. Et dans les Cévennes, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. C'est un rabbin qui visitait justement une famille protestante. Et là, eh bien, il avait un berceau avec un petit enfant qui était un nouveau-né. Et je vous le dis parce que ça paraît impossible, mais voilà que cet enfant s'est mis à parler. Et il s'est mis à parler en hébreu. Et il a parlé à ce rabbin qui était là, qui ne voulait pas admettre que Jésus c'était le Messie, c'était Yeshua. Et il s'est mis à parler en hébreu. Il lui a parlé de toute sa vie. Et il lui a parlé des prophéties. C'est pas un miracle, ça? Hein? J'en ai encore les frissons. Mais, vous voyez, c'est des choses extraordinaires que Dieu est capable de faire. La Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le problème, c'est qu'on y prend, on garde. Mais il y a l'amour de Dieu. Il y a la passion de Dieu. Il y a l'œuvre de rédemption par Jésus. Elle est si grande que même les pierres n'auraient pas pu se taire et l'auraient loué. Amen. Alors nous, louons le Seigneur. Adorons-le, célébrons-le, élevons-le justement au rang qui est le sien. Pareillement, je dirais que nous devons vivre aujourd'hui une vie de louange, d'adoration pour Jésus. Amen. Avec des cœurs aussi purs que ceux eh bien, de ces tout petits enfants. Amen. La troisième chose, c'est que Jésus va être reconnu comme le roi. Pas n'importe lequel. Le roi des rois. Quand il entre à Jérusalem, on a vu les gens jettent leurs vêtements sur son passage. Il s'écrit « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël ». Quelle sorte de roi était-il? Il n'est pas venu chevauchant un cheval somptueux, vous savez, un pur sang, symbole de guerre, de puissance. Mais au contraire, il est venu sur un âne, symbole de paix, pour nous donner la paix. Parce que c'est le but. Hein? Il est venu pour nous communiquer cette paix d'en haut. Alors Jésus, bien sûr, est bienvenu sur la terre comme un roi, mais comme le roi de paix. Amen. Et c'est lui qui nous donne une paix véritable. Il est le prince de la paix. Hein? Isaïe le prophétisait, Isaïe chapitre 9, verset 6. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Amen. Il y a quelque chose qui te dérange, qui t'agite, qui t'énerve, là, qui t'empêche de trouver le repos. Tourne les regards vers Jésus. Fixe du regard. Celui qui est appelé le prince de la paix. Tourne les regards vers lui, invoque-le, parle. Quelque part, vide ton cœur, ton âme, peut-être, parce qu'il y a des choses qui pèsent. Et demande-lui de te revêtir de sa paix. Demande-lui de te visiter. Il va le faire. Amen. Déjà, à sa naissance, les anges ont fait allusion à cette qualité. Hein. Ils louaient Dieu en disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Paix sur la terre. Amen. Et c'est vrai que la paix aujourd'hui, parmi les nations, même ici même dans notre pays, la France, même quelquefois dans les familles, c'est plus la paix. Hein. Même dans les foyers, c'est plus la paix. Hein. C'est la guerre. Mais Jésus, c'est le prince de la paix. Amen. Jésus, c'est celui qui veut faire descendre cette paix justement d'en haut. Et il est venu comme roi, mais comme roi de paix. La preuve, nous l'avons. Il y a des gens qui vont jeter des vêtements sur la route devant de lui. Et si vous lisez dans 2 Rois chapitre 9 verset 13, que tout pareillement on a jeté des habits par terre devant Jéhu lorsqu'il a été couronné. Hein, il y avait la corruption au sein des grandes instances. Hein, ces deux rois qui étaient corrompus. Mais voilà que le Seigneur choisit Jéhu. Et là on le reconnaît immédiatement. On met des vêtements justement par terre sur la monture que l'on va lui donner. On va l'élever bien sûr. Et lorsqu'il est couronné, on le reconnaît et eh bien, on agit. Eh bien, ce qui fut étendu, je dirais, sur le chemin devant Jésus, démontre l'évidence qu'il était bien entré dans la ville eh bien, en tant que roi. On le reconnaissait cette fois-ci comme roi. Et il est notre roi si nous voulons qu'il le soit. Amen. Voulez-vous que Jésus soit votre roi? Un roi, c'est un souverain. Il règne sur ses vassaux. Amen. Il faut qu'il règne. Est-ce qu'il règne dans ta vie? Est-ce qu'il règne dans ta vie?
Amen.
Alléluia. Alors son royaume, contrairement à ce que croyaient les juifs, eh bien, il n'est pas de ce monde. Il n'est pas de ce monde. Son royaume, c'est le royaume des cieux. C'est le royaume de Dieu dans lequel il règne. Il va régner même, je dirais. Il va régner après son retour. Nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes devenus par Jésus? Si c'est dans cette vie seulement que vous espérez, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. Alors, nous sommes déjà des citoyens du royaume de Dieu. Amen. Jésus doit être désormais notre roi, notre maître. Celui qui règne sur nos vies, sur notre cœur. Permets que Jésus puisse régner en toi. Tu as tout à gagner. Tu as tout à gagner. Lorsque c'est lui qui dirige, lorsque c'est lui qui conduit, hein, qui eh bien, maîtrise tout pour nous, qui maîtrise tout en nous. Amen. Lorsqu'il, à Jérusalem, il va entrer pour purifier le temple, il va le faire avec l'autorité d'un roi. Et qu'est-ce qui se passe? Personne n'ose le défier. D'ailleurs, c'est la seule fois où nous voyons Jésus en colère, prendre le fouet, et puis agir. Hein. Mais personne n'ose le défier. Quelque part, c'est une image pour nous. Un modèle d'exemple, comme vous voulez. Nous devons faire de même. Par exemple, lorsqu'il veut purifier son temple, notre vie. Amen. Lorsqu'il veut nous rendre purs, beaux, il ne va pas prendre le fouet. Mais il va mettre des circonstances, justement, pour que eh bien, nous passions quelque part par là. Hein? La toise du Seigneur, elle existe. Et quand il veut nous purifier, nous laver, faire de nous, ce que nous sommes normalement des êtres à part, parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes à part de ce monde, notre mentalité n'est plus la même. Il faut le laisser faire. Parce qu'il est le maître et le roi dans le cœur de ses enfants, il nous veut beaux. Alors ne le défions pas en nous opposant à l'action du Saint-Esprit. Rappelons-nous également qu'il nous prépare pour son retour. Amen, j'y reviens. Il revient bientôt. Il va revenir comme un roi. Amen. Comme le roi des rois. Et je crois que tous les jours dans notre vie, eh bien, nous devrions glorifier le Seigneur comme le roi de paix. Amen. Et nous devons également vivre dans la joie et l'espérance de son retour. Il revient bientôt. Et si le Seigneur revenait ce soir, cette nuit, demain matin, en fin d'après-midi, vous y pensez? Vous savez comment ça va se faire, le retour du Seigneur? Comment? Alors regardez, ne vous méprisez pas. Hein? C'est fini. Il est revenu. C'est fini. Le Seigneur, eh oui, mais c'est trop tard. La Bible nous dit de nous préparer au retour du Seigneur. Il nous veut veillants et priants. Il nous veut armés de foi. Il nous veut beaux. Amen. Rien d'impur ne pourra entrer au ciel. Tout ce qui a été lavé, passé au crible finalement de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu, des commandements du Seigneur, c'est ce qui va pouvoir faire que nous allons nous retrouver dans le ciel de gloire. Amen. Tout nous annonce le retour du Seigneur. Combien de temps reste-t-il avant son retour? Combien? Quelle date à me donner? Vite que je me prépare. On ne sait pas. On ne sait pas. Amen. Nous ne savons pas, mais ce que nous savons, c'est que nous devons nous y préparer, parce que ce jour viendra comme un voleur, égard à ceux qui n'auront pas été vigilants. Alors, je conclue en disant que Dieu nous garde du sommeil spirituel. Tout à l'heure, on a chanté « Réveille-nous ». C'est ça, hein? Que Dieu nous garde du sommeil spirituel, de la paralysie, de la paresse, parce qu'on a besoin d'être plus que jamais debout, témoignant pour le Seigneur. Sinon, on ne témoigne pas, l'adversaire, lui, se charge d'aller et de convaincre les cœurs. Nous, nous avons celui qui est entré à Jérusalem, accueilli comme un roi formidable. J'avais l'heure, je n'ai pas eu. Je vois l'heure, ça y est. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il a baissé ses regards vers nous. Et aujourd'hui, il nous a toujours sous son regard. Il est précieux pour nous parce que ce que moi je suis incapable de faire, ses dons spirituels le disaient, lui est capable de le faire. Il va me rendre capable. Amen. Je n'ai pas besoin d'aller chercher ailleurs autrement. Dans sa présence, je suis béni. Je suis visité. Je suis comblé. Je dis bon. Amen. Et je peux, tout simplement, en restant dans sa présence, uni à lui, tout simplement, eh bien, venir tel que je suis et lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, je veux faire des progrès. J'ai besoin, Seigneur, d'aller plus loin avec toi. Ne vous contentez pas de l'acquis. Hein? Parce que quand on a quelque chose, c'est déjà en train de se détériorer. Donc on a besoin. Ce qu'on a reçu, c'est que Dieu nous donne un témoignage de son amour, de sa puissance, de sa grandeur. Mais on a besoin ensuite d'aller plus loin, de chercher. Amen. Et s'il nous donne soif, c'est pour une bonne raison, c'est pour étancher notre soif. Donc, ayons soif du royaume de Dieu. Ayons soif de la puissance de Dieu. Ayons soif d'être ses témoins efficaces. Ayons soif de voir tout simplement le triomphe de l'Évangile. Amen. Nous avons été sauvés pour servir le Seigneur, les projets du Seigneur. Que Dieu nous aide, que Dieu vous aide et que Dieu nous aide. Parce que aussi bien nous, serviteurs de Dieu, que vous, enfants de Dieu, nous avons besoin du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et bénisse cette ville d'Arles, ses environs aussi, et bénisse le ministère que Dieu vous a donné, également le frère Richardson, que Dieu bénisse son épouse, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Il sait toutes choses. On a nos plans, puis les plans du Seigneur. Ce qui compte, c'est les plans du Seigneur. Amen.